Lisons ensemble un passage de l'évangile de Luc au chapitre 24, les versets 33 à 53. Se levant à cette heure, ils retournèrent à Jérusalem et trouvèrent les onze, et ceux avec eux ayant été rassemblés disaient « Le Seigneur est réellement réveillé, il a été vu par Simon ». Et ils racontèrent les choses qui leur étaient arrivées sur la route d'Emmaüs et comment il a été connu par eux au moment de la fraction du pain. Disant cela, lui-même se tint au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Terrifiés, devenus effrayés, ils pensaient voir un esprit. Il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi des objections montent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds. Moi, je suis moi-même. Touchez-moi. Contemplez qu'un esprit n'a ni chair ni os, comme moi vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Sous l'effet de la joie, ils ne croyaient pas encore. Et s'étonnant, il leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé, et ayant pris, il mangea devant eux. Puis il leur dit « Ces paroles que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il faut que s'accomplissent toutes choses ayant été écrites à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence pour comprendre les Écritures. Et il leur dit encore, comme il a été écrit, le Christ souffrirait, il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la conversion pour le pardon des péchés serait proclamée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'envoie sur vous la promesse du Père. Vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'en haut de l'Esprit. Il les conduisit jusque vers Béthanie. Ayant levé les mains, il les bénit. Et pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Eux, s'étant prosternés devant lui, retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple, bénissant Dieu. Nous prenons le 155, 1, 3 et 4. 155, 1, 3 et 4. Prions ensemble. Éternel, nous sommes venus ce matin à ton invitation pour écouter une fois encore ta parole. Mais nous te le demandons, ouvre notre esprit. Fais tomber nos réticences à nous laisser bousculer. Que chacun, ici présent, entende ta parole de vie et guide mes mots, afin que je parle bien de toi et de ton Fils, Jésus le Christ, notre frère et notre sauveur. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour une fête appelée Ascension, c'est-à-dire l'élévation de Jésus. Luc et Marc ont-ils utilisé cette image parce que le prophète Élie, encore très présent dans l'esprit de l'époque, a lui-même été emporté au ciel? Quoi que nous en pensions, fait historique ou métaphore, cette ascension est un départ, le départ de Jésus. Mais encore une question, à quel moment a lieu ce départ? Il s'agit bien du départ de Jésus sorti du tombeau, de Jésus réveillé de la mort. Rappelez-vous, dans le judaïsme, le mort dort jusqu'au jugement de l'Éternel à la fin des derniers temps. À la tombe de Lazare, Jésus affirme « Lazare, notre ami, est endormi et je vais pour le réveiller. » C'est ainsi qu'il nous faut remarquer qu'entre la mort de Jésus, voulue par les puissants religieux de son temps, et sa sortie du tombeau, il y a le geste de l'Éternel. Jésus est ressuscité dans le sens où sa vie n'est pas anéantie. Son enseignement est validé, sa mission est justifiée. Au temps de Jésus, l'espérance en la résurrection existait déjà. L'exil à Babylone, en 586 avant Jésus, questionne profondément l'idée de rétribution divine. Et naît alors l'espérance que la justice divine sera révélée aux fins dernières, marquant alors la vie ou la mort éternelle pour chacun. J'ose croire que les évangélistes n'ont pas voulu attendre les fins dernières pour affirmer ici et maintenant la justice de l'Éternel en faveur de Jésus. C'est ainsi que Jésus a été relevé de la mort 3 jours après. Ce oui de l'Éternel sur la vie de Jésus lui fait justice et est le dernier mot divin après le non des humains que nous sommes à accepter son enseignement. C'est donc bien Jésus réveillé, relevé de la mort, comme juste glorifié, qui est élevé. Ainsi Jésus est emporté au ciel, écrit Luc, un passif qui nous signifie clairement que c'est le geste de l'Éternel. Et le ciel, de quel ciel s'agit-il ? Deux sens importants à ce mot très fréquent dans la Bible. S'il est utilisé au pluriel, en hébreu ou en grec, il est utilisé pour nommer l'Éternel, dont on n'a pas le droit de dire le nom donné à Moïse en Exode 3. D'autant que l'Éternel a plusieurs noms et qu'il est difficile de le saisir en le nommant. Et au singulier, le ciel représente bien l'étendue de l'univers, visible par tout être vivant sur la terre. Alors je vous invite à garder les deux sens aujourd'hui. Luc écrit dans les Actes, au premier chapitre, « Pourquoi restez-vous à regarder le ciel ?» L'évangéliste insiste sur le « Pourquoi restez-vous » Sous-entendu, vous y passez trop de temps, même s'il est important de regarder le ciel de temps en temps. En effet, le ciel a une portée universelle, puisque tous les vivants peuvent le voir, le contempler. Et le ciel est dans la symbolique divine le lieu de résidence des dieux depuis longtemps. Traduisons encore, Jésus, élevé dans ce ciel universel, n'est-il pas donné à tout être humain ? Son enseignement n'est-il pas alors universel, valable pour chacun, où qu'il soit, quel qu'il soit ? Aïe ! Jésus n'appartient donc pas aux chrétiens ? Aux églises, au christianisme ? Rude question. J'ose répondre non. L'enseignement de Jésus est définitivement pour chaque être humain. Missionné par l'Éternel, Jésus est donné à tous. Et Jésus le reconnaît en envoyant ses disciples dans le monde. Allez par tout le cosmos proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Et son enseignement est beaucoup plus que des leçons. C'est une justice universelle que Jésus nous enseigne. Qu'est-ce à dire ? Tout ce que Jésus a dit, a fait, à enseigner est en faveur de l'autre, pour l'autre, à l'image de l'amour de l'Éternel pour chacun d'entre nous. Nous sommes reconnus chacun comme uniques, accueillis, écoutés, accompagnés, relevés par cet amour éternel. Si nous reconnaissons cette justice qui nous est donnée, à notre tour, nous pouvons faire œuvre de justice. Car je vous demande, aimer, n'est-ce pas être juste ? N'est-ce pas rendre justice à l'autre en lui donnant ce dont il a besoin pour vivre ? pour aimer à son tour? Aimer l'autre, n'est-ce pas le relever de ce qu'il a fait tomber? Nous pouvons aussi dire dans notre langage protestant justification, rendre justice, trouver l'autre juste. Rappelez-vous encore Luther, dans son Simul Peccator, Simul Justus, qui nous dit que par la grâce de l'Éternel, nous sommes en même temps pécheurs et justifiés, rendus justes. Il est vrai que cette justice de l'Éternel révélée par Jésus est difficile à comprendre, car pour nous, justice signifie récompense ou punition. Or, Jésus nous a enseigné une justice de l'Éternel, la justice de l'Éternel, qui donne définitivement à chacun ce dont il a besoin pour aimer, sans punition. Sous-entendu, tu fais du mal aux autres parce que tu manques d'amour. Alors je t'en donne encore et encore jusqu'à ce que tu changes de chemin. Une justice ouverte sur un avenir meilleur, toujours à accomplir. C'est ainsi qu'après avoir regardé le ciel, nous voici avec les disciples renvoyés sur la terre, au plus près de notre vie ici-bas. Cette invitation de Luc est importante. Ne restez pas à regarder le ciel. Le regardez, oui, pour y puiser force et joie à aimer sur la terre. Mais ne restez pas dans la contemplation. Agissez. Encore une fois, je dirais aïe. Car chaque dimanche, nous confessons notre foi comme nous venons de le faire. Nous confessons notre confiance en cet amour qui nous rend justice, en cette grâce qui nous relève jour après jour. Chaque dimanche et peut-être même chaque jour, vous dites votre reconnaissance d'être aimé et pardonné. Mais il y a quand même une question qui nous taraude. Oui, je dis ma reconnaissance, mais qu'est-ce que j'en fais ? Oui, je reconnais que l'Éternel m'aime, mais est-ce que ça porte du fruit dans ma vie ? Que faisons-nous de cette justice que l'Éternel nous donne ? Il nous justifie malgré nos erreurs, nos errements, nos manquements à l'amour. Que faisons-nous de ce don ? Vivons-nous comme des êtres pardonnés, ouverts au pardon pour l'autre? Je me demande si nous ne serions pas, vous et moi, encore comme de jeunes élèves, voire de très jeunes élèves, assis en classe à écouter Jésus. Jésus qui nous enseigne sa manière d'aimer et qui nous révèle la justice. C'est tellement confortable d'être assis et d'écouter, de recevoir. Mais Jésus a aussi dit, lève-toi et marche. Avons-nous décidé de quitter les bancs de l'école et de remonter nos manches pour mettre en pratique l'enseignement de Jésus? Sommes-nous passés du savoir au croire? Sommes-nous passés de l'enseignement reçu à la mise en pratique qui nous fait lever et aller vers les autres? Jésus nous attend et nous espère, car lui-même a dit à ses disciples dans l'évangile de Jean, « Il est bon pour vous que je m'en aille. » Jésus avait bien compris que les disciples marchaient avec lui, l'écoutaient, partaient en mission. Il avait aussi compris que les disciples obéissaient en le reconnaissant comme leur maître. Mais dans cette parole, Jésus les invite, nous invite à aller plus loin. Va, à toi de choisir maintenant ton chemin. Tu me connais, tu sais ce que je t'ai dit, tu vois les chemins que j'ouvre devant toi. Alors maintenant, à toi de choisir et de décider. En fonction de ce que tu es, de tes fragilités, de tes forces, en fonction de ceux et celles que tu croises sur ton chemin, mais va, je te fais confiance. C'est ainsi que le départ de Jésus ouvre alors pour chacun de nous un horizon grand, très grand. Ne pas rester à regarder le ciel, ne pas rester à regarder Jésus, ne pas rester à lire la Bible, mais marcher avec son esprit qui nous redit son enseignement et nous fortifie. Agir en communion vivante avec lui. Car Jésus nous dit, tu ne seras pas seul, je serai avec toi en esprit. Cet esprit qui est souffle, dynamique, puissance de vie, de création et de pardon. Cet esprit souffle qui demeure en nous. Rappelez-vous Genèse 2. L'Éternel Elohim façonna l'Adama, l'être humain, venant de la poussière du sol. Il souffla dans ses narines une haleine de vie et l'Adama devint un être vivant. Eh bien, en partant, Jésus nous dit et nous redit que nous ne sommes pas seuls, que nous ne sommes pas orphelins, c'est-à-dire privés de ce Père qui donne la vie. Cette vie spirituelle en notre vie de chair, comme le dit l'apôtre Paul, le souffle de l'Éternel est en nous, demeure en nous. Ainsi, ce n'est pas au ciel qu'il nous faut chercher le Dieu révélé par Jésus. Il demeure en nous, nous espère et attend que nous vivions au plus près de lui, avec lui. Jésus était magnifiquement intelligent dans sa compréhension de notre humanité. Souvent, mais pas à chaque fois, il donne un ordre et souvent il donne le chemin à suivre, mais pas toujours. Par exemple, quand il nous dit « aimez vos ennemis », il nous montre le chemin en trois verbes qu'il utilise. Et au moment de son départ, il agit de même. « Allez, vous êtes mes témoins, vous n'êtes pas seuls, vivez avec le souffle qui habite en vous. » Jésus avait compris que les disciples qui marchaient avec lui avaient du mal à le comprendre, parce que trop souvent, ils ne comptaient aussi que sur leur intelligence, leur propre savoir, en ajoutant bien sûr la radicalité de l'enseignement de Jésus qui bousculait tout le monde. Jésus a effectivement poussé le bouchon assez loin dans l'interprétation de la loi, déstabilisant jusqu'aux pharisiens instruits. Pourtant, sans cesse, Jésus ouvre les yeux de ses disciples, hier comme aujourd'hui, pour nous dire « ne compte pas que sur toi, ne compte pas que sur ton intelligence et sur ta connaissance, marche, vis, agis, pense, aime avec ce souffle qui est en toi et tu agiras dans l'abondance avec justice. » Jésus nous dit aussi, je sais que vivre avec les autres, c'est souvent difficile. Je sais que vous serez souvent insultés, reniés, incompris, parce que vous êtes mes témoins, Je sais aussi, dit Jésus, que parfois tu feras le mal que tu ne veux pas faire et que tu ne feras pas le bien que tu veux faire, comme l'écrit l'apôtre Paul. Mais, dit Jésus, va, je te fais confiance, ne renonce pas, va jusqu'au bout, tu n'es pas seul. N'est-ce pas cela, vivre dans la foi ? La foi n'est-elle pas pour Jésus cette relation intime avec le souffle dans lequel se poser, se reposer, se nourrir, se ressourcer ? Ce souffle qui jamais ne rejette, jamais ne condamne, toujours ce souffle qui relève, qui nourrit et désaltère. Jésus n'est plus là, il est parti, mais il nous a révélé l'amour dont nous sommes aimés, il nous a révélé la source de notre vie. Jésus a pleinement raison quand il nous dit « Il est avantageux pour vous que je m'en aille ». Une manière de dire qu'il nous fait confiance, mais que maintenant, nous sommes en première ligne. Et pour assurer cette mission, il nous invite à aller à la source qu'il a envoyée lui-même en mission, cette même source qu'il a nourrie et accompagnée pendant son ministère. Il nous montre le chemin. Il nous invite à aller sur les chemins à sa suite et à nous ressourcer comme lui dans le silence et la prière. Il nous invite à rendre justice, car justice nous est rendue, à écouter, car nous sommes écoutés, à pardonner, car nous sommes déjà pardonnés. Oui, nous sommes invités, ici et maintenant, à accomplir l'Évangile. Et c'est le Jésus relevé, justifié, et glorifié qui nous envoie en mission, vous êtes témoins de ces choses que je vous ai dites. Nous pouvons le suivre, marcher avec lui, être les témoins, ici et maintenant, de cet amour révélé. Il nous fait confiance. Jésus a foi en chacun de nous. Finalement, cette journée de l'Ascension est d'une très grande actualité pour chacun de nous. Car si nous lisons tout le chapitre 24 de Luc, nous entendons que le tombeau est vide. L'énorme porte a été roulée. Ainsi, toutes les portes de nos enfermements sont ouvertes. Dans la foi, nul ne peut rester enfermé dans un jugement, une situation, une trahison. La justice divine ouvre toutes les portes et ressuscite la vie. Oui, nous entendons que Jésus est vivant, le cœur de notre foi. Les premiers témoins de cet inouï relèvement sont des femmes. Des femmes appelées à témoigner auprès des disciples à une époque où les femmes n'avaient qu'un seul droit, c'était de se taire. Des femmes témoins et porteuses de la bonne nouvelle, et que les hommes ne voudront pas croire, ils iront vérifier ce qu'elles disent. J'ose dire, en tant que femme, les temps ont-ils vraiment changé en profondeur ? Je continue. Certains disciples, enfermés dans leur chagrin, vont marcher avec un homme qu'ils ne reconnaîtront pas comme Jésus. Tant il est difficile, c'est vrai, de voir clair dans l'épreuve que nous traversons, de croire que nous pouvons à chaque instant être relevés de tout ce qui nous met à terre. Et arrivant par surprise à la plage où sont réunis les disciples, Jésus les envoie en mission. Tout ce qui s'est passé en ce premier jour de la semaine est vrai, ici et maintenant, pour chacun de nous. Même si cette journée est inouïe, c'est-à-dire du jamais entendu, la résurrection, les rencontres, l'ascension. Pourtant, ces deux journées est à vivre ici et maintenant par chacun de nous. Ce départ de Jésus nous pose une dernière question. Que vas-tu faire de ce que je t'ai donné? Que fais-tu du cadeau que tu reçois? Et que fais-tu de moi qui te l'ai donné? Si nous gardons ensemble les deux intimement liés, le cadeau de la grâce et Jésus qui le donne, notre vie sera relevée, ressuscitée à chaque instant. Alors, chaque jour, si vous êtes enraciné dans cette union du donateur et du don, vous reconnaîtrez que vous êtes relevé par l'amour, le pardon, la présence de l'aimé dans toute épreuve qui vous blesse et vous met à terre. Chaque jour, vous ferez des rencontres où vous pourrez être témoin de ce souffle qui demeure en vous et vous pourrez aussi le réveiller chez l'autre. Chaque jour, vous vivrez entre ciel et terre en levant les yeux pour regarder un autre que vous-même sur terre. Chaque jour, vous ferez en sorte que les dons reçus portent des fruits à travers vous. Oui, il vous est possible de vivre chaque jour enraciné dans l'amour qui vous est donné. Il s'agit bien d'incarner l'Évangile chaque jour à la suite de Jésus, et c'est alors que le souffle en vous grandira, élèvera votre regard vers les autres et vous rendra plus fort. Vivre chaque jour votre vie de chair, comme le dit l'apôtre Paul, en laissant le souffle créateur vous animer. Ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Voilà le défi que Jésus vous lance aujourd'hui. Êtes-vous prêt à relever ce défi ici et maintenant, encore et encore?
Thank you.